Bien sûr, on est là pour ça. Oui, là-bas, là, dans un instant. Bah, attends, ça commence, là. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le pire reste à venir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février 2023, et tout va bien. Ce matin, au programme du Pire Reste à Venir, nous parlerons équitation. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas venu seul. Nous échangerons plus précisément d'ailleurs avec Karine Bouet du Centre Équestre La Scie, où nous parlerons sport, bien entendu, mais surtout social, le cheval en outil de médiation. Nous irons faire un tour du côté de Conches-en-Ouche à la salle Jean-Pierre Bacry, où nous aurons Laura au téléphone qui nous parlera de la pièce La Honte que vous pourrez voir ce vendredi. Nous retrouverons également Martine Bourg avec Bon Matin les Pingouins, du bon son, de la bonne humeur et de la bonne musique. Et ben vous voilà partis pour une heure.
Le pire.
Reste à venir.
Bon allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
This is it.
I see your light shine. You're a real one, the gentle kind. You're not perfect, Lord knows you have some secrets I. But I will keep them since it's been a while that I see you making effort to show me.
Oh,
Sivana avec le titre If You Only Knew.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Oui, bonjour à tous, bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs, bonjour à ceux qui nous reçoivent. Je me permettais d'appeler, c'est Nati de Rock and Roses. Je me permettais de vous appeler pour vous remercier. Remercier l'émission que nous avons pu faire il y a pratiquement un an. Remercier tout le monde pour l'accueil. Remercier surtout tous les gens qui sont venus grâce à l'émission. Parce que hier, nous avons pu remettre donc un chèque de 10 000 euros à la Ligue contre le cancer et au professeur Plateau qui était avec nous sur le plateau. Voilà. Donc, un grand, grand, grand merci à Principe Actif. Un grand merci à tous ceux qui font vivre Principe Actif. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Très bonne journée à vous tous. Au revoir.
Bonjour à tous. L'association Les Arts à la Mare vous propose d'assister à un match d'improvisation théâtrale le dimanche 26 février à Claville. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un affrontement amical mais sans merci entre deux équipes de théâtre qui s'affrontent sur un thème tiré au sort par l'arbitre. À la fin de chaque manche, c'est le public qui désigne l'équipe qui mérite le point. Donc, si vous avez envie d'assister à ce spectacle hyper rythmé et décalé, rendez-vous le dimanche 26 février à 15h à la salle des fêtes de Claville. C'est 5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. N'hésitez pas à réserver en nous contactant sur notre page Facebook Les Arts à la Mare. Sinon, il y aura une billetterie sur place. Voilà, on espère vous voir nombreux.
Nous sommes avec Karine Bouet, gérante directrice instructeur au centre équestre SCIE. Si. Bonjour Karine, comment allez-vous déjà?
Eh bien, tout va bien, il fait beau, du temps froid et sec, pour nous et nos chevaux, c'est quand même plutôt pas mal.
Oui, c'est vrai que vous bossez principalement au grand air quand même.
Eh oui.
Et donc du coup, la météo a son importance, mine de rien.
Eh oui, surtout en fait, on a des aires de travail couvertes, hein, des manèges, mais le temps est quand même important parce que quand il pleut trop, les animaux sont un peu dans la boue, donc il faut beaucoup les bouger. Et puis, quand il fait très froid, on n'a plus d'eau dans les abreuvoirs, donc 80 chevaux à donner à boire au seau, entre 20 et 50 litres d'eau chacun par jour, ça fait les bras.
Ah ouais, quand même, c'est-à-dire que c'est une grosse partie du travail. Justement, sur ce centre équestre, alors bien entendu, on monte les chevaux, mais il y a toute la partie un petit peu qu'on ne voit pas quand on est grand public ou quand on est novice comme moi, qui est la partie quand même s'occuper des bêtes, qui j'imagine doit prendre un certain temps quand même.
Ben, pour donner une idée, nous sur la structure, on est 9 à travailler à plein temps dessus. Donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas sans savoir que les chevaux, ça mange tous les jours. Donc pas de Noël, pas de jour de l'an pour une partie d'entre nous. Et c'est du matin 8h moins le quart jusqu'au soir. En général, l'équipe finit vers 18h, 18h30, moi vers 20h. Mais si un cheval est malade, s'il y a potentiel de travail supplémentaire, on est toujours là au boulot.
Sur 80 bêtes, j'imagine que ça doit arriver en plus.
C'est ça.
Alors, je voulais revenir sur ce centre équestre, le centre équestre de SCIE. Si, on dit si ou on dit, parce que c'est plus sympa de dire si que SCIS,
alors,
non?
C'est le centre équestre de la SCIE, puisque nous sommes situés à Longueville-sur-SCIE, la SCIE étant la rivière qui traverse le village.
Ah oui, donc c'est le Saint-Écresse de la Scie, quoi, tout simplement.
Voilà.
Ouais, c'est plus joli que des lettres comme ça, acronymes, quoi. Alors, en fait, une des particularités de ce Saint-Écresse, c'est au-delà de monter, comme je le disais, c'est qu'il y a tout un volet social. Dans votre Saint-Écresse, la pratique de ce sport n'est pas que sportive, justement. Il y a tout un volet social à travers plusieurs projets. Vous m'aviez évoqué le poney parloir, la médiation équine. Vous travaillez aussi avec des publics en difficulté. Vous travaillez avec le milieu du handicap, les mineurs non accompagnés, la PJJ. Enfin voilà, tout un champ du social finalement. Est-ce que c'est quelque chose d'ordinaire dans les centres équestres de travailler sur des valeurs sociales, ou c'est une de vos particularités au centre équestre de la Scie?
Alors, la particularité du centre équestre de la Scie, c'est qu'on fait tout un tas d'activités orientées vers des publics complètement différents, et on peut retrouver dans d'autres centres équestres une ou deux de ces activités. Notre particularité à nous, c'est qu'on fait tout au même endroit. Donc, c'est-à-dire qu'on, sur le même site, se croisent toutes sortes de publics, que ce soit des propriétaires, des gens qui ont un petit peu d'argent, des gens qui font de la compétition, des gens qui viennent monter à cheval pour le plaisir, qui viennent faire des balades, des gens qui viennent avec des gamins dans le cadre du scolaire, des centres de loisirs, et des personnes atteintes de handicap, et des personnes âgées, et des jeunes de la prévention judiciaire de la jeunesse, et des détenus, et des jeunes de quartiers difficiles, et des gens de CEF. Donc c'est vraiment ce centre équestre, si on veut essayer de le résumer en un seul mot, c'est vraiment l'inclusion. C'est-à-dire que tout le monde doit se supporter, doit s'accepter, quelles que soient ses conditions sociales, financières, tout ce qu'on veut bien. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de recréer une société idéale dans ce centre équestre.
Alors du coup, est-ce que les instructeurs qui interviennent dans votre centre équestre ont une particularité? Est-ce qu'il faut une sensibilité particulière, ou finalement, en oubliant la particularité, ça suffit?
Non, il faut vraiment que les gens, d'abord, d'une part, aient cette sensibilité, mais d'autre part, qu'ils aient été formés. C'est-à-dire que les monitrices qui s'occupent avec moi du social et du handicap, elles sont toutes diplômées du brevet fédéral d'encadrement équi-handi et équi-social, qui sont des diplômes fédéraux, au-delà de leur diplôme de moniteur d'équitation, qui sont des diplômes d'État.
C'est ça, il y a la particularité sportive, et ça, c'est, elle est encadrée, on va dire, par tous ces diplômes d'éducateur sportif. Et la partie sociale, la partie inclusion, en fait, qui est également encadrée aussi par tout un tas de diplômes, par des diplômes en tout cas, et des savoirs particuliers, parce qu'on n'aborde pas un public d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin, ça dépend du public, en fait, tout simplement.
Exactement, donc il y a un minimum à connaître, et que les gens qui travaillent auprès de ces publics doivent déjà connaître la définition de chacun de ces publics, de chaque organisation de ces publics, et ensuite avoir une pédagogie vraiment adaptée en fonction de ce qu'on recherche sur tel et tel public.
Alors vous me parlez des encadrants, mais finalement vos chevaux, vos poneys, en tout cas les équidés, n'ont aucun diplôme particulier, n'ont pas de formation particulière. Est-ce que justement l'échange avec l'animal a quelque chose de particulier pour des publics qui auraient soit des empêchements, soit des difficultés particulières?
Alors on a une cavalerie assez fournie, puisque entre les chevaux d'instruction, les doubles poneys et les poneys, on est à peu près à 60 animaux. Bon, ça, on a 90 chevaux sur la structure aujourd'hui, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a des chevaux et poneys qui sont plutôt orientés vers de la compétition, donc qui ont leur job le mercredi, le samedi, le dimanche en compétition, les vacances scolaires, et comme on fait de la formation moniteur, et bien les jeunes moniteurs retravaillent ces chevaux et poneys-là. Et ensuite, on a toute une partie de cavalerie qu'on appelle la cavalerie de club, qui est une cavalerie qui travaille essentiellement mercredi et samedi avec des enfants de tout niveau, et puis qui travaille en semaine. Alors pour les plus cool d'entre eux, ou les plus âgés d'entre eux qui travaillent avec les personnes en handicap, donc qui vont être beaucoup au pas sur des petites allures qui sont des activités pas fatigantes. Et puis on a une partie de cavalerie aussi un peu porteuse, avec un caractère suffisamment calme, mais en même temps suffisamment trempé, pour travailler avec des publics en difficulté, de façon à ce que, comme le cheval ne juge pas et c'est un miroir, quand on fait mal, ça doit être sanctionné, et c'est pas à nous de sanctionner, c'est le cheval. Donc voilà, on a toute une cavalerie qui est très adaptée à chacun d'entre eux.
Donc il y a vraiment des bêtes en particulier qui sont repérées comme pouvant travailler avec des publics particuliers. Alors c'est vraiment ce repérage qui est fait aussi au sein de votre cavalerie. Sur, justement, vous évoquiez à l'instant que le cheval ou le poney est un miroir de ce qu'on lui renvoie. On a dans le grand public, et moi-même j'ai déjà entendu parler des bienfaits du cheval sur, voire même des pathologies, des fois d'ailleurs sur des pathologies ou sur des particularités. C'est vraiment un animal qui se comporte comment finalement avec le public, soit particulier, soit ordinaire d'ailleurs.
Mais en fait, le cheval n'a pas de jugement de valeur. Donc en fait, que vous soyez grand, petit, gros, gentil, méchant, de n'importe quelle race, n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle religion, lui il s'en fout, il ne calcule pas ça. Donc en fait, le cheval, il a ce regard sur les gens qui est le même, non jugeant. Donc ça, c'est sa première qualité. Et en fait, il s'adapte au comportement de chacun. Et ce qui lui permet, j'aime bien dire, il gomme les différences. C'est-à-dire que le cheval, si je vais faire de la compétition avec un cheval et je vais m'adresser à lui et communiquer avec lui dans son langage, donc il va me comprendre, il va réagir avec moi, en fonction de ce que je lui demande bien sûr, de la même manière que le cheval qui va être avec une personne en situation de handicap, qui aura été travaillé pour ça, et qui va être reconnu à cette juste valeur. C'est-à-dire qu'il va être le même dans toutes les situations, c'est-à-dire qu'il ne supportera pas l'injustice, donc il le montrera plus ou moins fort. Sur un cheval très sensible de compétition, il peut vous jeter par terre s'il n'est pas d'accord. Et sur un cheval qu'on utilise sur ce genre d'activité, il va le montrer, mais beaucoup plus doucement. Mais ce que je tiens vraiment à dire, c'est que le cheval, il est là, et l'intérêt qu'on a de ces activités, c'est vraiment d'apprendre à tous les publics à leur parler cheval, donc à être compris du cheval. Et à partir du moment où ils respectent les règles du cheval, celles qu'on leur donne, donc s'ils nous écoutent, bien sûr, à ce moment-là, ça se passe toujours très bien. Et quand ça se passe pas bien, c'est une réponse à un comportement inadapté. Donc évidemment, c'est pas tout à fait pareil dans le champ du handicap. Dans le handicap mental, on va beaucoup plus tranquillement, on a des chevaux et des poneys qui vont accepter un peu plus l'erreur. Mais dans le cadre des publics en difficulté, des jeunes un petit peu, qui causent un peu de soucis dans notre société, qui ont plus de règles, etc., ça c'est génial parce que si c'est bien adapté, ils vont prendre du plaisir, si c'est pas adapté, ils vont payer cash.
D'accord. Alors, comment on parle cheval, justement, vous évoquiez là, il faut parler cheval. C'est quoi? C'est tactile? C'est à travers des intonations? C'est comment ça se passe, cette relation humain-cheval? Est-ce qu'il y a des règles de base, en fait, pour une bonne relation humain-cheval?
Ah oui, les règles de base, c'est que la communication, elle se fait par le corps. C'est une communication non verbale. Vous pouvez toujours dire au cheval, salut, t'es mignon, je t'aime beaucoup, il s'en fout. Par contre, vous allez adopter une posture, vous, en tant qu'humain, qui va se rapprocher de celle du cheval. Et c'est comme ça que le cheval va vous comprendre. Et à force de l'observer, vous allez le comprendre. Je donne un exemple tout bête. Je vais faire sûrement beaucoup d'ennemis dans ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Quand on donne un bonbon ou un bout de pain à un cheval à la main, c'est pas bien pour le cheval. Parce que est-ce que dans la nature, un cheval donne un bout de pain à un autre cheval? Est-ce qu'il donne une carotte à un autre cheval? Non. Ça n'empêche pas de donner des friandises, ça n'empêche pas de récompenser le cheval, mais on met par terre ou dans la mangeoire. Mais déjà le fait de donner à manger un cheval à la main, eh ben, on est un peu supérieur à lui, dans son image à lui, dans sa représentation.
Et ça c'est perçu par le cheval, parce qu'on aurait presque l'impression de lui faire comme un cadeau, comme une offrande un peu au cheval, quand on lui donnerait une récompense ou une friandise à la main, on pourrait se dire, ah bah on lui montre de l'intérêt ou on lui fait un cadeau. Et finalement, ça, il le perçoit, le cheval, cette notion de se positionner au-dessus?
Non. C'est-à-dire que le cheval, quand vous lui donnez quelque chose à la main, vous vous faites plaisir à vous.
D'accord.
Et vous le rendez dépendant. C'est-à-dire que vous l'avez dit, oh, regarde, t'as vu, il m'a reconnu. Non. Il est dans sa tête, tu es devenu une machine à donner à manger. Alors que quand on a vraiment la vraie relation avec le cheval, eh ben, il vous reconnaît pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous lui donnez. Et donc, vous êtes son égal.
Ça doit être, c'est très transcriptible sur l'humain, en fait, ce que vous dites, entre rendre dépendant, enfin, j'imagine des publics peut-être plus en difficulté, rien que ce parallèle, on peut quasiment le faire déjà d'humain à humain, cette notion d'être dépendant, d'être nourri ou d'être récompensé, des choses comme ça, quoi. Enfin, de la relation qu'on génère finalement, c'est quasi retranscriptible à l'humain.
Alors, pas, Pas nécessairement, parce que l'humain, il a son intelligence, il a sa capacité supérieure aux animaux à s'adapter, etc. Donc après, et puis il y a l'explication, il y a le verbal. Donc après, ça dépend comment c'est fait. Vraiment, la relation cheval, c'est je te parle cheval avec mon corps, puisque toi, cheval, tu parles avec ton corps. C'est-à-dire que le cheval, quand il n'est pas content, il baisse les oreilles. Quand il fuit, il le montre. Quand il est intéressé, il a une certaine attitude. Je vous donne un exemple, quand on a des publics qui viennent, je leur explique déjà que le cheval, c'est un animal grégaire qui vit en groupe. Il a besoin de son groupe et qu'on croit toujours que c'est les talons qui commandent, etc., etc., ce qui est archi faux, puisqu'il y a des juments dans le groupe qui sont les juments référentes, pas forcément dominantes, mais auxquelles le groupe s'attache. C'est-à-dire que si les juments, elles mangent tranquillement par terre, eh bien le groupe, le troupeau, va être tranquille à manger par terre. Si une de ces juments lève la tête et est inquiète, le troupeau va lever la tête et va être inquiet. Ils vont se rassurer dans le groupe. Et les talons, lui, ils servent qu'à surveiller ses juments pour ne pas se faire piquer, et puis à saillir pour reproduire.
Et ça, finalement, c'est aussi rentrer en contact avec le cheval, c'est aussi faire acte d'observation, finalement, si je veux vraiment comprendre comment ça se passe, si je veux vraiment rentrer en contact avec les animaux. Ça va m'obliger à moi à prendre du temps et presque du recul sur ce qui se passe autour de moi, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on n'a pas forcément l'habitude toujours de prendre du recul sur ce qui se passe autour de nous.
Ah ben là, c'est clair et net, hein. Travailler avec le cheval, si on veut le faire bien, c'est vraiment le connaître, donc l'avoir observé, avoir fait un peu d'erreurs, savoir les réparer, nos erreurs, et surtout c'est d'être capable d'améliorer chaque jour ce contact qu'on a par l'observation. Ben là, il a réagi comme ça, mais est-ce que j'étais bien à la place ? Je vous donne un exemple, quand je parle des angles morts chez les chevaux aux gens, je leur dis, ils ne voient pas un petit endroit devant, ils ne voient pas derrière, ils ne voient pas sous leurs pieds, et ils ne voient pas sur leur dos. Donc à partir du moment où vous faites marcher sur les pieds par un cheval, c'est que vous n'étiez pas à votre place. Pas la peine de lui mettre une claque, il ne peut pas voir où il met ses pieds. Donc c'est à vous de respecter absolument le cheval en l'écoutant et en respectant son fonctionnement.
Dans ce que vous dites, effectivement, je ne m'étais jamais posé la question, mais il y a certaines choses qui paraissent évidentes, comme il ne peut pas voir sur son dos. Le fait que le cavalier monte sur son dos, finalement, c'est déjà un acte quasiment de confiance, ou alors c'est un acte violent, hein, s'il n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est quasi un acte de confiance, alors quand il nous accepte sur son dos.
Ah ben, c'est un acte de confiance parce que ça a été travaillé correctement avant. Si vous prenez un cheval qui a jamais vu un homme et vous montez dessus directement sur son dos, je pense que vous allez vous en souvenir.
C'est ça, on ne va pas y rester longtemps, hein.
C'est ça.
Alors, je vais vous proposer qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve juste après. On va parler des projets un peu plus spécifiques. On a parlé de la médiation équine et notamment avec des détenus, le travail avec la PJJ, les mineurs non accompagnés, le travail avec les personnes en situation de handicap. Je vous propose qu'on se retrouve juste après pour qu'on en sache un petit peu plus et qu'on aille un peu plus dans le détail. Karine, si ça vous convient.
Pas de problème.
Et bon, on se retrouve juste après ça.
avec le titre Rakia Su Katamam, un titre, oui non mais vous arrêtez pas ma prononciation, un titre qui annonce la sortie d'un album mi-mars de Altin Gun.
Le pire reste à venir.
Allez, debout là-dedans, allez.
Le pire reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HDR.
Le pire reste à venir.
Nous sommes toujours avec Karine Bouet du Centre équestre de la SCI. Elle est gérante, directrice, instructeur. Et puis nous l'avons avec nous à nos micros pour nous parler des projets un peu plus spécifiques. On a abordé en première partie globalement la relation au cheval et puis la façon dont le Centre équestre entendait l'action éducative et sociale. Karine, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les projets. Il y a un projet qui m'avait accroché l'oreille quand vous en aviez parlé, c'était celle du poney parloir, si j'ai bien compris. C'est la médiation équine avec les détenus, c'est ça?
Alors, le poney parloir, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai mis en route il y a beaucoup d'années maintenant. Et en fait, j'intervenais beaucoup en prison et j'avais vraiment des problèmes relationnels avec les gens autour, les gens que je connaissais, d'autres personnes, etc., qui était assez vindicatif par rapport au fait qu'ils avaient dans l'idée qu'on donnait du plaisir aux détenus, et donc ça crée toutes sortes de conflits qui ne me convenaient pas. Et donc j'ai réfléchi en me disant, est-ce que je pourrais trouver, il faut que je trouve un projet qui va permettre à tout le monde d'être d'accord. Et je me suis dit, pour ça, parce que c'est quoi l'incarcération? C'est la privation de liberté. Et aussi la préparation de la sortie. Hein.
C'est ça, ce volet-là qui est important aussi, c'est la préparation de la sortie.
Bien sûr, hein, et donc ça veut dire que ça passe par l'insertion, la réinsertion, et surtout si on laisse des gens enfermés sans rien faire pendant 10 ans, dans quel état ils vont sortir. Mais ça, c'est compliqué à faire comprendre un petit peu aux gens autour de moi, et donc je me suis dit, il faut que je passe par l'enfant, par le maintien des liens familiaux. Donc je me suis dit, ce serait pas mal d'organiser un projet où je mets les enfants, j'emmène les poneys en prison. On va sur le côté de la prison parce qu'on ne peut pas rentrer des enfants en détention parce que voilà, c'est légalement pas possible. Donc le juge d'application des peines permet à certains détenus, papa, etc., sur un projet qui a été travaillé avec les gens du SPIP. Donc moi, j'arrive avec mes poneys et la matinée, je les forme, les papas, comment on tient le poney, comment on fait, etc., comment on le prépare, quel jeu on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce que leurs enfants aiment pour qu'on puisse inventer des activités autour d'un thème, genre la Reine des Neiges, Bambi, j'en sais rien, Superman, etc. Et donc on prépare toute l'action le matin ensemble, vraiment de façon assez renforcée. Le midi on déjeune, et l'après-midi en fait, les enfants viennent, donc je demande aux mamans, et quand c'est des éducateurs de foyer, de ne pas rester, et donc les papas apprennent, entre guillemets, à monter à leurs enfants.
J'entends à travers ce que vous nous évoquez là, la difficulté d'une relation entre un enfant et un papa incarcéré, la valorisation aussi de l'image, et puis surtout cette notion de pouvoir, sur un temps très restreint, créer des liens éducatifs, mais des liens aussi d'affection entre le papa et l'enfant. Est-ce qu'il y a ces notions-là dans ce projet, et puis comment on arrive à les mettre en œuvre ?
Complètement. Déjà, il y a des enfants dont les mamans ne veulent pas qu'ils aillent voir leur papa au parloir. Donc ça fait une vraie fracture familiale. Donc l'idée de ce projet, c'est qu'on fait sur plusieurs séances bien sûr, c'est que l'enfant vienne voir son papa, au lieu de dire le lundi s'il a été voir son père au parloir, je suis allé voir mon père en prison, le lundi il dit je suis allé faire du poney avec mon père. Déjà la notion est différente. Pour les enfants qui ne voient pas leur papa au parloir, c'est une découverte et redécouverte de leur papa. Si vous portez l'enfant un petit peu régulièrement, eh ben ça permet d'avoir un maintien du lien familial, puisque en général, quand on fait cette activité-là, l'après-midi, ils font du poney avec papa, mais pas que, puisqu'on leur fait faire des dessins, des peintures, ils peignent sur des fers à cheval que je ramène, je leur donne des flots, donc les flots, c'est les cocardes qu'on donne quand les chevaux ont gagné des épreuves, donc je les fais faire en PVC, pour que le papa puisse repartir avec son flot, l'enfant aussi. Le papa avec les dessins de l'enfant, l'enfant avec le père, parce que le père, ça rentre pas en détention. Et ce qui permet d'avoir le papa dans sa cellule et l'enfant dans sa chambre, des objets communs, qui leur rappelle ces journées-là et qui leur permet de maintenir à minima ce lien familial.
Et puis j'imagine que vous avez des retours de ce type de projet, peut-être les papas qui vous renvoient des choses, peut-être plus que d'ailleurs que les enfants, parce que j'imagine que les enfants repartent ensuite avec les mamans ou avec la famille. Quel type de retour vous avez, vous, de ces moments, des petits extraits de témoignages peut-être de ce qu'ils vivent?
Ben moi j'ai un exemple parfait d'un petit de 3 ans, dont la maman m'a amené, et en fait, quand j'ai amené le petit à son père, il s'est mis à hurler, enfin, ça a été le drame international. Le papa m'a regardé en disant, laisse tomber, de toute manière, il ne me connaît pas, c'est bon, et j'ai dit, hop là, surtout pas. Donc, j'ai demandé à la mère de partir, j'ai gardé le gamin avec moi, et puis, j'ai dit au père, tu restes à côté de moi tout le temps, moi, j'ai brossé le poney avec le gamin, j'ai commencé l'activité, puis au fur et à mesure, le papa s'est rapproché, et puis, j'ai dit, attends, je te mets dans les bras de papa, le temps d'aller chercher une brosse, enfin, bref. J'ai usé de toutes les stratégies pour que, à partir du milieu de l'après-midi, il s'est cassé avec son papa à poney. Alors que si on n'avait pas eu cette activité-là, Gamala, il connaissait toujours pas son père, il voulait pas le voir.
Et alors que c'est tellement important, même dans des situations particulières comme celle de l'incarcération, c'est pourtant tellement important, et aussi bien pour l'enfant que pour le papa, d'avoir ces relations qui se créent, qui se nouent, et puis qui avancent avec le temps. Parce que si on est sur une incarcération longue, par exemple, c'est le temps qui fait aussi la relation. Donc j'imagine que c'est tellement essentiel ce type de relation.
Ah ça fait partie intégrante de la lutte contre la récidive, hein.
Oui, voilà. Alors, on peut y mettre la lutte contre la récidive, effectivement, qui est un vrai objectif et une vraie chance. C'est vrai que moi, j'y mets beaucoup de l'affectif et puis la notion humaine de c'est tellement essentiel d'être en contact avec son papa et inversement, un papa, c'est tellement important d'avoir le lien avec son enfant. Et effectivement, au service d'une réinsertion, j'imagine, ça paraît assez évident. Sur les actions de ce type-là, le poney parloir me parlait énormément, mais les actions du centre équestre de la Cie ne se limitent pas à cette action-là. Il y a notamment plusieurs actions, et vous évoquiez tout à l'heure notamment des jeunes pour qui les repères étaient moins évidents, à savoir les jeunes issus de ce qu'on appelle la PJJ, la protection judiciaire juvénile. Il y a des actions aussi qui sont mises en place avec ces publics de jeunes en PJJ et comment ça fonctionne aussi ce type d'atelier?
Alors on reçoit sous forme de journée ou de demi-journée des jeunes qui sont issus de centres d'éducation fermés ou centres d'éducation renforcée. Donc ils viennent passer la journée là avec pour objectif en première partie de journée c'est de participer à des actions qui sont plutôt contraignantes du style balayer, brosser les chevaux, aller les chercher dans les prés, vider des box, donner à manger. Enfin, avec nous, on essaye de leur faire ça, et avec la carotte derrière qui dit « cet après-midi, vous montrez à cheval ». Donc tout ça, c'est une recherche de travail sur le respect, déjà en passant par le respect du cheval, essayer de respecter un peu l'adulte et se respecter soi-même, que ce soit en termes de comportement qu'en termes d'hygiène. Mmh. Donc ça, c'est des activités qu'on mène depuis 15 ans, facile. C'est pareil, ça fait partie de l'action éducative des foyers qui sont là aussi pour continuer à cultiver ces jeunes-là et à les remettre un peu dans le droit chemin, puisqu'ils sont sous main de justice, hein, quand même, c'est pas rien. Et ces activités-là, elles ont leur sens parce que quand il faut venir au mois de janvier, qui fait moins 4, et puis qu'on a préféré mettre ces belles chaussures parce que je veux montrer mon beau jogging et tout, et quand je me caille les fesses pendant toute la journée, peut-être la fois d'après, je vais faire un peu plus attention, de m'habiller correctement, de prévoir.
Oui, c'est ça, il y a être en adéquation avec ce qui va se passer. Moi, je voulais revenir sur cette notion de respect, et il est tellement évident qu'un cheval, de toute façon, ou un poney, s'il a décidé, ou en tout cas si on le prend mal, il ne se passera pas grand-chose. On a suffisamment galéré pour essayer d'emmener dans nos jeunes années un poney à un endroit ou à un truc. Enfin, c'est juste impossible s'il n'a pas envie. Hein. Enfin, en tout cas, s'il a décidé que ce n'était pas possible, c'est pas possible. On ne fait pas le poids, et c'est le cas de le dire. Du coup, ça oblige forcément, peut-être à des jeunes qui auraient des réponses plus radicales, plus excessives, à adapter une réponse, une façon d'être face à l'animal. J'imagine que ça doit être une leçon évidente.
Ah ben complètement, hein. Ça c'est génial, c'est que je travaille des médiateurs. Hein. Nous, on met en place des actions, des activités, un apprentissage, etc. Mais si la réponse elle n'est pas adaptée, ben, il va se punir tout seul. Hein. Et donc ça crée des frustrations, ça crée des moments de violence, des choses comme ça sur lesquelles on peut retravailler derrière.
Ce type de médiation en PJJ, il y a aussi, j'ai la sensation pour nous à la radio, avoir travaillé parfois aussi avec la PJJ, la notion aussi de sa propre image. Ça veut dire que, vous l'évoquiez, si ça se passe bien, le cheval ou le poney, on arrive à l'emmener vers l'objectif qu'on avait, le monter, le changer d'espace, peu importe, en tout cas on arrive à y faire quelque chose. J'imagine aussi qu'il y a une notion de valorisation, parce qu'on est face à un animal quand même qui est relativement imposant, le poney ou le cheval, ça reste assez imposant comme animal. Quand on arrive à ses fins ou à arriver à son objectif, ça doit être hyper valorisant aussi pour peut-être des jeunes qui, sur l'image d'eux-mêmes, c'est pas toujours évident.
En fait, l'objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent à faire du cheval leur partenaire et pas leur objet et pas un matériel de consommation. Et en fait, ils vont avoir un vrai bonheur, en général. Bon, après, ça se travaille, hein, c'est pas du premier coup. Quand ils ont compris ça, qu'il faut que ça en soit un partenaire, qu'ils utilisent les bons gestes et qu'ils soient vraiment dans la communication et l'approche du cheval adaptée. S'ils ne le sont pas, il va y avoir toujours des choses qui ne vont pas fonctionner, donc on est frustré. Un cheval qui ne va pas avancer parce qu'on ne l'entend pas comme il faut, donc on va s'énerver. Plus on va s'énerver, moins ça va marcher. Ou alors le cheval va partir à fond la caisse et là, ben, on va être sanctionné. Donc c'est vraiment adapter son comportement à celui de l'animal. C'est plus facile pour eux à faire que l'adapter à un autre adulte.
Oui, c'est ça. C'est peut-être aussi, c'est à travers vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la posture corporelle, enfin c'est le corps en fait qui parle. Peut-être que c'est plus simple qu'avec des mots. En tout cas, on se met peut-être moins nu avec le comportement, enfin je sais pas, c'est peut-être plus... J'ai du mal à le définir, mais en fait, on sent bien que le langage corporel est vraiment très différent du langage verbal, qui parfois peut poser des problèmes de le construire, en fait, ce langage verbal. Alors que l'animal, et vous l'aviez dit, aucun jugement, aucun préjugé, on peut peut-être plus se livrer, se laisser aller.
C'est-à-dire que si vous dites à un cheval « Wesh, ta mère », il s'en fout. Hein.
Oui, il ne va pas s'énerver.
Non, c'est clair, lui, ça va glisser sur lui, ça va être plutôt... La façon physiquement de le dire, si on le fait de façon un peu agressive, là, le cheval va réagir. Si on le dit comme ça, wesh ta mère, il ne va pas réagir du tout. Donc en fait, il faut réadapter un autre langage que le leur.
Alors on voit bien aussi les effets bénéfiques de ces jeunes en PJJ. Il y avait un autre projet sur lequel je voulais passer, parce qu'en fait vous êtes vraiment une mine d'or de projets hein, dans ce centre équestre de la SIG. Lorsque nous étions rencontrés, Karine, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y avait toute cette dimension sociale, et on voit bien à travers notre échange qu'elle prend beaucoup de place, cette dimension sociale. Il y a aussi des ateliers qui sont mis en place avec les mineurs non accompagnés. Alors ce sont des mineurs qui viennent des quatre coins du monde, hein, c'est qui se retrouve en France non accompagné. Et là, en quoi, une fois de plus, le cheval ou plus largement le milieu de l'équitation peut intervenir sur leurs problématiques ou leurs difficultés?
Alors là, on va être très, on va pas être plus royaliste que le roi. Moi, mon objectif, c'est quand on voit ces jeunes en souffrance qui sont vraiment qui ont vécu des drames, mais plus horribles les uns que les autres. L'objectif, c'est qu'ils sont tellement sollicités quand ils arrivent sur faire les papiers, déclarer sa minorité, trouver un stage, et ci et là, et ci et là. Ils sont complètement sollicités, que nous, ce qu'on leur propose, c'est une parenthèse. C'est à un moment donné, pour eux, où ils essayent de poser les valises à l'entrée du centre équestre, et on l'offre, une activité qui est une activité assez classique pour nos jeunes, nous, de France, parce qu'on a un magnifique pays. Et on propose des ateliers comme ça où ils peuvent souffler. Et dans ces activités-là, le fait qu'ils puissent vraiment souffler et être tranquilles, eh ben, il y a des conversations qui se mettent en place, il y a des choses qui sont dites, il y a des ouvertures d'esprit. Il y a tout ça qui vient se mettre en place tout au long de l'activité, et qui s'est posé un peu dans un moment donné, qui leur est réservé à eux, pour essayer d'être encore plus fort, pour repartir après, dans les galères administratives et tout ce qui leur est demandé, la sollicitation.
Peut-être aussi des moments de détente qui permettent de reprendre du recul, tout simplement, parce que comme vous l'évoquiez, à travers le parcours du combattant de ces mineurs non accompagnés, c'est à aucun moment un espace de liberté. Justement, ils l'ont sur ce centre équestre. Peut-être c'est l'occasion aussi de pouvoir prendre de la distance d'une avec ces problématiques, mais avec peut-être se retrouver soi-même justement quand on a évacué les problématiques. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même. C'est même nécessaire pour tout être humain.
Ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment microscopique par microscopique.
Mais finalement, c'est par tous ces petits éléments, ces petits moments de bonheur aussi qu'on avance dans la vie, tous autant qu'on est, et des personnes particulièrement, comme vous le disiez, sollicitées par les situations administratives et puis du quotidien. Finalement, avoir ce temps de bonheur, de petites joies, de petits éléments comme ça, c'est peut-être justement bien plus essentiel. Peut-être que ça prend une autre place même d'ailleurs dans la vie des uns et des autres.
Exactement.
On avait évoqué, j'essaie d'égrener un peu rapidement parce que je trouve que finalement, chacun des projets, des actions que vous menez sont intéressantes, mais finalement dans la globalité, c'est peut-être là où elles prennent aussi du sens, comme vous le disiez. On essaie de faire dans ce centre équestre un lieu de vie idéal, c'est ce que vous me disiez tout en début d'échange. Finalement, c'est aussi à travers la multitude de ces projets. Et un des projets, c'est également l'accueil des personnes en situation de handicap et vous leur proposez aussi d'accéder à l'activité équestre.
Tout à fait. Donc, on a de l'activité plutôt autour du cheval pour les gens les moins autonomes. Mais on a du matériel pour mettre n'importe quelle personne à cheval de façon sécurisée. Et on travaille toujours avec les soignants à la recherche d'objectifs en fonction des capacités de chacun. Parce qu'on ne parle jamais d'incapacité, mais de capacité. Et puis, on a de tous les niveaux des gens qui viennent juste pour approcher le cheval, caresser, passer un bon moment, se sentir contre l'animal, communiquer ou pas, jusqu'à des jeunes qui vont faire des petites compétitions.
Et ça, j'imagine que quand on est face au sport adapté de manière générale et à l'équitation, d'autant plus en situation de réussite avec l'animal, quand on est sur du handicap physique notamment, ça doit être assez particulier de vivre un peu des moments presque ordinaires dans une situation non ordinaire.
Ah ben complètement, ça, c'est notre vie. Hein. Ça, c'est notre vie. Je veux dire, quand des gens arrivent sur le club et voient tout ça, ils ouvrent des yeux grands comme des coquilles en disant « Mais on est où ?» Et quand on regarde les gens qui vivent à l'intérieur, que ce soit les propriétaires, les cavaliers, ça paraît tellement normal que du coup, ben, on se fout en masse et puis voilà, on suit, on se laisse porter.
Finalement, c'est le monde idéal que vous êtes en train de recréer dans ce centre équestre.
Que j'essaye.
Oui, parce que j'imagine que ça ne doit pas être sans mal quand même, parce que finalement, de croiser les publics, c'est aussi parfois croiser les appréhensions de l'un et de l'autre. J'imagine que c'est une règle de fonctionnement qui doit être martelée, répétée régulièrement au sein du centre équestre.
Bien sûr, mais on a une aide formidable pour ça, c'est le cheval, puisque je vous dis qu'il gomme la différence, donc ça passe. Ça paraît nature, ça passe.
Ben voilà, vous avez la gomme à différence à portée de la main, et ça c'est plutôt pas mal. On échange, on discute, et j'imagine que peut-être des personnes se diraient, mais c'est la classe ça, en fait, comme façon d'aborder le monde, ou comme métier pour s'orienter. Vous, dans les instructeurs que vous avez sur le club, on l'évoquait en tout début d'émission, c'est des gens qui sont diplômés d'État d'instructeurs en équitation, je sais pas comment s'appelle spécifiquement le diplôme, mais c'est quelque chose dans l'esprit. Un diplôme d'état d'instructeur, j'imagine.
C'est le BPJEPS, en fait, c'est des moniteurs d'équitation. Il y a une instructrice, je suis instructrice aussi, et il y a des monitrices, donc des BPJEPS.
Et puis après, pour la partie plus spécifique, on l'évoquait, des compléments de formation, où une appétence suffit pour rentrer dans ce type de métier.
Oui, c'est des formations. Alors, des formations tout au long de la vie et des formations avec certification, donc qui débouche sur des diplômes.
Est-ce que c'est monnaie courante, ce type de centre équestre, un petit peu d'un monde meilleur, comme on pourrait le dire, ou d'un autre monde? C'est monnaie courante, ces centres équestres, ou vous restez quelque chose de très particulier à l'échelle de la France?
Non, là, ça se développe beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je suis formatrice, je viens de France pour former des dirigeants de structures et des moniteurs
qui ont déjà un pied dans le handicap ou dans le social, mais ça se développe beaucoup. Après, toutes ces activités au même endroit, je ne crois pas qu'on soit très nombreux.
Mais oui, par petits éléments, en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Bah, c'est plutôt une bonne chose, ça. Voilà, ce cheval qui gomme la différence, moi j'aime bien comme élément. C'est peut-être l'élément le plus fort, en fait, de notre échange. C'est ce cheval qui gomme les différences. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça laisse rêveur, quand même. Karine, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous.
C'était un plaisir.
Nous en savons beaucoup
quand même.
J'imagine, ça s'entendait hein, que vous êtes passionné. Hein. Voilà, il n'y avait pas forcément de point d'interrogation à ce que je vous disais, et il y avait déjà une réponse ou quelque chose à ajouter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On sent les gens passionnés, puis on aime bien les recevoir nous à l'antenne, les gens passionnés.
C'était un grand plaisir.
Merci beaucoup, Karine Bouet. Je rappelle, vous êtes gérante, directrice, instructrice au Centre équestre de la Scie. Merci beaucoup pour votre passage dans notre émission.
Eh bien, à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.
Les pingouins. Bon matin, les pingouins. Au pays des ours. Sur la mousse.
Deux oursons à califourchon sur un champignon. Tu me pousses, je te pousse. Poum, sur la mousse. Hop, on fait la course. Boum, on a retrouvé papa ours.
Boucle d'or.
Wonderful, marvelous Annabelle Lee. Lovable, kissable Miss Annabelle Lee. Ain't she a pretty baby? What would you give? Escorting her, supporting her.
Un, deux, trois ours au fond des bois, fifille en visite, manger soupe, casser chaise, essayer lit, endormi. Un, deux, trois ours surpris, fifille en fuite, vite, vite, si on n'est pas poli, comment se faire des amis?
Salut, ça va?
Ouais, ça va et toi?
Ouais, ça va.
Des fois on dit que ça va mais ça va pas. Des fois on dit et toi mais on voudrait pas. Des fois on dit oui mais on écoute même pas. On est là mais en fait on s'emmerde quoi. On attend, on sourit, on essaye, on se force. Au fond on se dit putain je suis pas pareil. Qu'est-ce que je fous là? Je commence à trouver ça long. Je crois que ça se voit. Je me fais chier dans les soirées. Je me fais chier dans les soirées. Je me fais chier dans les soirées. Allez avouez. On se fait chier dans les soirées. On se fait chier dans les soirées. On se fait chier dans les soirées. Pas vrai? Faire semblant, pourquoi on fait tout ça? Franchement, pourquoi on prend sur soi? On nous l'apprend si on arrêtait ça. Entre la courtoisie et l'ennui, il n'y a qu'un pas. Je veux parler de tout plutôt que de rien faire. Genre, c'est trop fake, je suis pas bien. Mon CV, ton CV, Montagnier, Claude François, c'est bon là, je crois. Genre là, moi je voudrais que ça. Moi je voudrais que ça. Moi je voudrais que ça. Ou à peine ou tout comme
fake.
On croise tout le monde mais on voit personne
fake.
On veut pas être seul alors on s'ivrogne. La fête est plus folle si on est plus fake. fake, fake, fake. Je veux danser, 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 danser pour oublier, danser, 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 danser pour oublier, sauter, 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 sauter pour oublier. Je me fais chier dans les soirées, je me fais chier dans les soirées, je me fais chier dans les soirées, je me fais chier dans les soirées. Allez, avouez, on se fait chier dans les soirées, on se fait chier dans les soirées, on se fait chier dans les soirées. Pas vrai? Faire semblant pour qu'on fait tout ça. Franchement, je veux pas perdre de temps, moi. On nous l'apprend si on arrêtait ça. Entre la courtoisie et l'ennui, il n'y a qu'un pas. Ça ferait quoi si c'était grillé là? Ça vexerait d'avouer que la pluie et le beau temps, bah on l'a pas, que c'est précieux et surtout sans être méchant. On s'en fout quoi? Genre là, moi je voudrais que ça. Moi je voudrais que ça, moi je voudrais que ça.
Me fait chier dans les soirées, titre de Petite Gueule et Julieta, sorti très très fraîchement sur les plateformes de diffusion. On vous le conseille fortement.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDL.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur. Et des bons
plans. Le pire reste à venir.
Et justement, si vous faites chier dans les soirées, nous avons la solution, en tout cas pour la soirée de demain soir. Nous avons au téléphone Laura, la programmatrice de la salle Jean-Pierre Bacri, avec nous. Bonjour Laura, comment vas-tu ?
Bonjour, eh bien ça va très bien. Et toi ?
Eh ben écoute, impeccable. Comme je le disais, on a le remède, nous, contre les gens qui se font chier en soirée, c'est sortir, en fait, tout simplement. Et c'est dans ce sens-là qu'on t'appelait ce matin, parce qu'il y a ce vendredi 10 février, à 20h, à la salle Jean-Pierre Bacri, qui est la salle de spectacle de Conchanouche, il y a une proposition particulière sur laquelle nous voulions absolument faire un petit zoom, à savoir la pièce La Honte qui se joue, une pièce qui est proposée par la compagnie Divine Comédie. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ce qui est cette particularité de La Honte, et puis un petit peu en quelques mots ce que va proposer cette pièce?
Oui, bien sûr. Alors donc La Honte, donc de la compagnie Divine Comédie, comme tu l'as dit, c'est une compagnie normande. Et donc cette pièce, donc c'est du théâtre, donc cette pièce met en scène une doctorante et son directeur de thèse, et ça met surtout en scène une commission disciplinaire qui se réunit pour déterminer si leur relation sexuelle est un acte d'abus ou non. Et ce qui est particulier dans cette pièce, c'est que ça nous pose, nous, public, en position de juré, et ça nous amène à nous interroger sur nos propres perceptions, en fait.
Et c'est justement cette commission disciplinaire, c'est le public, qui, à la lumière des éléments qui vont s'avancer tout au long de la pièce, devra prendre position. Et puis finalement, c'est pas blanc ou noir, finalement, cette histoire. C'est un peu plus dans la nuance.
Oui, complètement. Justement, ça nous pousse à ne plus voir que le blanc, que le noir, mais à se poser les bonnes questions et à se rendre compte que finalement, c'est pas toujours si simple, et que derrière ce type d'histoire, il faut se pousser à s'interroger et à aller plus loin que juste les infos qu'on nous donne de prime abord.
Ça fait écho au mouvement MeToo, ça fait écho à tous les éléments qui arrivent dans l'espace médiatique sur des abus d'influence, sur du chantage sexuel, des choses comme ça. Ça arrive vraiment en résonance et en écho avec finalement l'actualité, enfin en tout cas le monde dans lequel nous vivons, tout simplement.
Oui, complètement. Moi, c'est ce que je voulais dans cette programmation aussi, c'est parler donc de sujets d'actualité qui sont voilà, très importants aujourd'hui. Et donc ce spectacle-là fait vraiment résonance à cette programmation que je voulais forte et puissante.
Ce spectacle-là, je l'ai repéré, nous sommes appelés hier ou avant-hier, je ne sais plus, en disant, mais là, on est quand même sur un truc particulier, exceptionnel, quasi inratable. Je me permets de mettre le zoom, ça fait partie d'une petite pépite, j'allais dire cachée dans la programmation. Non, dans la programmation, tout simplement, c'est ça, c'est les petites pépites que tu avais envie de mettre en valeur, j'imagine.
Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est un des spectacles, en tout cas, qui, pour moi, il ne faut pas louper cette saison. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais oui, ça en fait partie.
C'est une expérience aussi de spectateur un petit peu particulière. Tu disais, c'est le public qui va être amené à se positionner. Comment ça se passe? Il y a une interaction avec la salle ou c'est chacun qui rentre avec son propre verdict? Car, rappelons-le, hein, nous sommes la commission disciplinaire quand on va à ce spectacle.
C'est ça. Alors non, il n'y a pas de prise de parole en public ou de participation active. En fait, c'est vraiment une réflexion avec soi-même et finalement, si on vient avec des amis, avec de la famille, bien sûr, il y aura en fait, après le spectacle, on propose toujours un petit pot de convivialité et ce moment-là sera aussi amené à pouvoir échanger entre nous sur ce qu'on a vu et ce qu'on a pensé justement de ce spectacle.
C'est là où elle va délibérer, en fait, la commission disciplinaire, finalement, c'est dans le coup à boire après le spectacle.
Exactement.
Ça sert aussi à ça, le spectacle. C'est en fait qu'une fois qu'on a vu un spectacle, une pièce un spectacle vivant, de toute façon, c'est aussi prolonger le moment en échangeant dessus, l'objectif étant de ne pas ressortir tout à fait exactement comme on en est rentré dans cette salle.
Oui, nous, on met un point d'honneur, justement, à cette notion de partage. Qui est aussi importante que le fait de se déplacer pour venir voir un spectacle, selon moi.
Alors forcément, on va arriver aussi à la programmation, à la tarification, parce que je crois que sur la salle, il y a une tarification quand même qui est hyper abordable, voire quasi invitante.
Oui, c'est ça. Alors nous, c'est vrai qu'on a, si mes souvenirs sont bons, on fait partie, on est la salle de la région qui pratique les tarifs les plus bas. C'est une volonté politique et culturelle de la ville. Donc sur ce spectacle, en fait, en plein tarif, on sera sur du 12 euros et en tarif réduit, on est à 7 euros.
Quelque chose d'hyper abordable, en fait.
Oui, complètement.
Ce serait dommage de s'en priver. En fait, on l'avait repéré, pour tout dire aux auditeurs, on avait repéré cette programmation. Je t'ai appelé il y a deux jours en disant « Ah, ça, quand même, c'est le truc, quoi. » Tu m'as dit « Bah ouais, carrément, c'est le truc. » Donc, on en parlait un petit peu ce matin. J'espère qu'on a donné envie d'y aller. En tout cas, c'est à partir de 20h à la salle Jean-Pierre Bacry à Conchanouche. L'accueil y est sympa, voilà. Et puis, on peut rester pour délibérer avec la commission disciplinaire à la fin du spectacle, autour d'un verre, une belle soirée, quoi qu'il arrive.
Voilà, c'est ça, t'as bien résumé le tout.
Eh bien écoute, c'est plutôt pas mal. Il y a en 30 secondes un autre rendez-vous à pas louper sur cette salle, à part la honte de vendredi soir?
Oui, complètement. Le prochain rendez-vous, ce sera après les vacances scolaires, le 4 mars, avec un spectacle aussi assez parlant, qui s'appelle « Ceci est mon corps ». De la compagnie La Vie Grande, une compagnie normande également. Et ça raconte l'histoire du corps d'une femme née dans les années 90 avec tout ce que ça peut soulever.
Eh bien, très bien.
En lien avec la journée internationale des droits de la femme le 8 mars.
Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même des programmations qui font écho à l'actualité, à ce que nous vivons et même au calendrier des journées internationales. Eh bien écoute, c'est parfait, Laura. Je te remercie pour ce petit zoom et ce complément d'information. Je rappelle, la honte, c'est vendredi 10 février à 20h à la salle Jean-Pierre Bacry à Conchanouche. C'est une bouchée de pain le plus cher que vous pourrez payer. Même si vous voulez payer plus, ce sera 12 balles. C'est plutôt honnête, hein. Merci Laura.
Merci.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette matinale de ce jeudi 9 février 2023. Nous étions sur les antennes d'HDR, sur les antennes de Principe Actif. Voilà, on remercie également Karine Bouet de nous avoir parlé cheval médiation et puis surtout social. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.